En fait, oui, mais au fait, je vais pas parler de sexe, en tout cas pas directement. En fait, je vais travailler, une partie de mon travail du corps et de l'espace a à voir avec la proprioception. Hein, cette perception interne de soi, ce sont des sensibilités cutanées, mécaniques, probablement un grand nombre d'entre vous savent ce que c'est. Et j'ai fait un certain nombre de découvertes qui ont à voir avec le thème d'aujourd'hui, desquelles j'étais complètement étonné. En fait, je ne vais pas parler de sexe, mais en réalité, je vous ai menti, parce que je vais parler de Léonard de Vinci. Là, c'est la fameuse page sur la reproduction sexuelle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le petit dessin en bas à gauche. Hein, il fait une coupe du zizi, sagittale et longitudinale, et il voit deux méas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il n'y en a qu'un. Hein, et tous les fluides passent par le même. Pourquoi Léonard de Vinci, qui était le plus grand empiriste de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire quelqu'un qui voulait voir avec ses yeux, qui avait des cadavres à la maison, il faut l'imaginer au XVe siècle avec des cadavres sans frigo, je ne sais pas, seul la nuit, ça doit être l'horreur. Mais bon, et lui, il écrit à côté, il dit, un des deux canaux, c'est pour l'élan vital. C'est beau, hein? C'est un canal pour l'âme. En gros, il fallait un canal pour l'âme. Pourquoi il fallait un canal pour l'âme? Parce que connaissant les théories médicales hippocratiques grecques des tempéraments, des fluides, mais finalement, il se dit mais il doit y avoir un fluide de l'âme, et du coup, ça ne peut pas se mélanger avec le pipi, là, évidemment. Donc, d'ailleurs, si on revient au dessin d'avant, vous pouvez voir plus précisément, je ne sais pas si j'ai fait une slide, oui. Au fait, si vous voyez, il y a un canal qui arrive à la moelle épinière. Hein? La moelle, le corps, la substantifique moelle, c'est ce qui donne la chair, probablement, pour lui. Et le deuxième canal, il passe par les testicules et va au cœur. Parce que l'âme, c'est dans le cœur, on sait bien, non? Donc, effectivement, alors comment ça se fait? Ma question est, comment ça se fait que le plus grand empiriste de l'histoire, qui voulait voir des trucs avec ses yeux, il ouvre un zizi et il voit deux canaux. Ça veut bien dire qu'on ne voit pas ce qui est devant nos yeux, on voit ce que l'on reconnaît, c'est-à-dire ce que l'on peut nommer. Même dans les théories, vous savez, si vous perdez les corps striates du cortex cérébral où se trouvent les noms des choses, vous ne voyez plus. Alors qu'il y a 32 autres aires visuelles dans le cerveau, qui voit très bien, vos yeux sont intacts, vous ne voyez plus rien. Et on ne voit plus rien parce qu'on ne peut pas nommer. Il y a un rapport entre le nominal et le visuel, il y a la vision nominale et une vision spatiale, mais les deux font appel à quelque chose de l'ordre du nominal. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je me sens personnellement en guerre. Je ne sais pas comment vous sentez, mais je pense que nous sommes en guerre. Hein? Pourquoi? Le champ de bataille, c'est la perception. Il y a peu de morts, mais beaucoup de blessés. Nous sommes, tout le monde veut nous vendre quelque chose, nous convaincre de quelque chose, que l'on vote quelque chose. Tout le monde veut nous entuber. Tout le monde essaie de faire. Donc, c'est l'enfer. Hein, c'est l'enfer permanent. Mais cet enfer, tout ce que je nomme, est-ce que Foucault nomme comme biopouvoir, la biopolitique, évidemment, toutes les influences sur nos perceptions, je dis rien de nouveau. Mais du coup, comment on vit en enfer? Italo Calvino nous donne une très belle définition. C'est la phrase finale de Les villes invisibles. Hein. L'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un, c'est celui qui est déjà là. L'enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble. Il y a deux façons de ne pas en souffrir. La première réussit aisément à la plupart, accepter l'enfer. En devenir une part au point de ne plus l'avoir. La seconde est risquée et elle demande une attention, un apprentissage continuel. Chercher et savoir reconnaître qui est quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer et le faire durer et lui faire de la place. C'est ce que j'essaie de faire en faisant des créations. La création arrivait tard dans ma vie. Moi, je voulais pas être un mauvais artiste de plus. Il y en a déjà tellement que. Mais un musée d'art contemporain au Brésil m'a dit, Marvando, on te voit toujours bosser sur les idées des autres. T'as pas des idées à toi? Je dis non. Mais puis, bon, ils m'ont convaincu. Il y avait quelque chose que je ne savais pas faire et que je voulais voir. C'est que plus tard dans Deleuze que que j'ai trouvé, il dit, un artiste se met toujours à faire des choses qu'il ne sait pas faire, à la limite entre ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire pour étendre le domaine de ce qu'il sait faire. Donc, si le champ de bataille est notre perception, soit on va dans le spectacle, hein, soit on devient l'enfer, on fait du divertissement, si on décide d'être artiste, ou on peut décider de faire de la politique, on peut décider de faire de l'économie, en étant enfer, en travaillant pour le capital, etc. Ou alors on pose des bombes, on se pose en terroriste, c'est-à-dire, c'est ce que dit Deleuze, l'art est un acte de résistance, alors on fait résistance. Donc, où se joue la résistance? Moi, je n'ai pas envie de poser des bombes parce qu'il y a toujours... Je serais très bien à qui envoyer des vraies bombes, mais disons qu'après, il y a des dommages collatéraux.
Des conséquences.
c'est chiant. J'aime bien marcher plus que 3 mètres dans une cellule. Donc, au fait, c'est cette résistance à quoi? La résistance au dispositif. Hein. George Agamben dit, j'appelle dispositif tout ce qui a d'une manière ou de l'autre la capacité de capturer, orienter, déterminer, intercepter, modeler, contrôler et assurer les gestes. Mais, il dit, quelque part à la suite de Michel de Certeau, Agamben n'invente pas grand-chose en fait, parce que ça c'était déjà Foucault et Michel de Certeau dit, oui, effectivement, le corps est l'endroit où tous les interdits s'incrustent. Hein, ça devient corporel d'abord, un interdit gestuel. La société disciplinaire, le Foucault dans Surveiller, Punir. Mais déjà, Marcuse, en réalité, disait la même chose, quelques détails près, dans Eros et Civilisation. Donc, le sexe revient. Mais donc, on peut pervertir le dispositif. Hein, comme dit Michel de Certeau, je peux... tous les interdits s'incrustent sur le corps, mais le corps est aussi le premier lieu dans lequel un geste peut se libérer. C'est pour ça que dans ma théorie, le plus grand chorégraphe du XXe siècle, c'est Elvis Presley. Parce que Elvis, il a rien fait d'un point de vue de danse, il a juste copié un mouvement en le déplaçant, le mouvement du bassin d'un black à un blanc, il rend le mouvement insoutenable à la vue. D'ailleurs, on l'appelait Elvis the Pelvis, vous savez qu'à la télé, on ne pouvait pas le filmer de la taille en bas, c'est le diable. Mais qu'est-ce qu'il y a pourquoi je pense que c'est le plus grand chorégraphe du XXe siècle? Parce que, justement, en manifestant, grâce au rock, qui est la première musique de l'histoire, vous savez, quand vous allez au concert, vous êtes comme ça, si le voisin chuchote, vous dites, vous cherchez une bonne place pour entendre bien, vous allez à un concert rock, vous criez à the top of your lungs, vous en foutez de la qualité du son, on bouge, on boit, ça s'agite. Donc le rock est la première musique de l'histoire qui est faite pour ne pas rester assis. Et la danse rock, hein, dans laquelle quand on danse en couple, on lance la fille en l'air qui retombe contre vous, bassin contre bassin. Je veux dire, c'est assez explicite qu'il faut pas, c'est pas très subtil la sexualité, la présence du sexe dans le rock. Donc en rendant légitime, donc en dédouanant des scènes adultes, désirs sexuels dans une société américaine qui était encore raciste et sexophobe, il pose les bases pour la révolution sexuelle de 68, la grande révolution de 68. C'est-à-dire les premières revendications des étudiants avant la semaine de 40 heures en 68, c'était de pouvoir aller dormir dans les dortoirs des filles. Alors qu'ils étaient des adultes, mais c'était impossible. Les dortoirs, ils étaient séparés. Ils se disent, mais c'est quoi ce délire? Donc, en gros, sans Elvis, je pense qu'on n'aurait pas eu 68. Si on mesure la valeur artistique de quelqu'un sur l'impact qu'il a eu sur la vie, peut-être qu'Elvis est le plus grand chorégraphe du XXe siècle. Parce qu'aucun autre chorégraphe a eu un impact sur la vie, comme ça. Donc, il a perverti le dispositif. Dans ce cas, ce dispositif de blocage du bassin, et Mario, ça va te faire rigoler. J'étais au Brésil dans un festival où je présentais ma deuxième pièce, il y a une compagnie allemande. Donc, on va tous boire des cachaça et danser le samba dans un petit bar. Alors, le directeur allemand de la compagnie me dit, ah, nous, on bouge pas le bassin, nous sommes civilisés. Les Brésiliens ont fait un grand sourire. C'était très bon, ça. Leur réponse, oui. Donc voilà, propre réception, vous voyez que si tous les interdits s'incrustent sur la corporalité, sur le corps comme des gestes interdits et des gestes impossibles, ben il faut, j'ai décidé de livrer ma bataille en tant que créateur et chercheur universitaire, dans ce domaine-là, pour essayer de faire que les gens se rentrent un peu plus en contact avec leurs sensations, leurs propres sensations. Parce que notre sensation, elle est tout le temps colonisée. En fait, il y a des tentatives d'assassinat quotidiennes. Donc voilà, je vous montre mon premier dispositif, c'est celui dont je vous ai parlé, et qui va révéler ces rapports, vous allez voir, étonnants du corps dans l'espace. Il s'agit, je vous montre d'abord le dispositif, c'est une salle de à peu près 4 mètres par 3, mais on peut être plus grande. Il y a une caméra à infrarouge zénitale et des projecteurs de lumière infrarouge. Tout autour, vous voyez des enceintes. Il y a une salle avec un accès technique pour les ordinateurs. Donc cette caméra crée une zone de capture vidéo là-dedans. On est dans le noir complet. Donc ça s'intitule « Dans le noir ». Je ne me casse pas toujours la tête avec les titres. Et tous les mouvements du spectateur sont analysés via la caméra qui est numérisée par un ordinateur qui détermine 30 fois par seconde la position X, Y, donc en deux dimensions, vue d'en haut. Et tous les déplacements déclenchent et spatialisent des sons autour de la personne, autour du spectateur. Donc une installation dans le noir complet pour un seul spectateur à la fois. Je vais vous montrer une petite vidéo. Vous allez voir et entendre, j'espère. Hop, pardon. Ouais, c'est parti. Tant pas très fort, hein. Ça bouille, ça va aller. Ah, il y a encore un peu? Il y a encore un peu, je vois bien. Ça dure 4 minutes et 30, mais ce n'était pas une citation de Keynes. C'est juste un hasard. Donc la personne est dans le noir complet. Mais j'en ai filmé juste une pour pouvoir avoir un exemple. Mais normalement, on ne filme pas. Ça devient de plus en plus violent, puis de plus en plus abstrait, sidéral. Voilà, ça c'est la partie cool. Vers la fin, les sons, bon, je ne vais pas vous asséner avec toute la vidéo, mais l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'au départ, vous ne savez pas si vous êtes seul ou s'il y a quelqu'un, parce que vous rentrez, il y a une respiration toute basse qui sort de l'enceinte la plus proche de vous. Dès que vous vous déplacez, vous entendez des pas. Si vous arrêtez, il n'y a plus de pas, mais il y a la respiration. Vous dites, merde, il y a quelqu'un, et il y a quelqu'un qui me voit parce qu'il me suit, ou elle me suit. Bref, et ensuite ça devient de plus en plus violent, des bruits de manipulation d'objets, de pierres traînées, des bruits internes du corps, et puis ça devient complètement abstrait. L'intérêt de ça, c'est que des centaines de personnes sont rentrées dans l'installation, plus spécifiquement par rapport à l'espace, j'étais très très étonné, parce que moi je les vois, je n'enregistre pas en général, mais je les vois dans l'ordinateur, je vois qu'il n'y a que deux types de déambulation dans l'espace. En fait, il y en a trois. 99% des gens ont deux types. 1% reste immobile. Quasiment rien se passe au niveau du son, mais ça doit pas le gêner parce que ça doit pas les gêner parce qu'ils bougent pas. Et je me suis dit, tiens, c'est plutôt des contemplatifs. Ça serait le troisième type. Mais les deux premiers, je voyais, puis je voyais comment ils bougeaient et ils peuvent. Soit ils font d'abord. Voilà, ils rentrent et ils font le tour des bords. Là, en fait, la proportion n'est pas juste. La personne est plus petite. ils rentrent, ils font le tour des bords, et après ils se mettent à danser au milieu. Et il y en a qui rentrent et qui dansent tout de suite au milieu, ils touchent quasiment jamais les bords. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre ça. Comment ça se fait qu'il y a ces deux types de comportements? Et comme j'ai fait de l'analyse du mouvement pendant 10 ans avec Hubert Godard à Paris 8, j'ai vu que les gens qui rentrent et qui font le tour de bord ont une organisation gravitaire de type bottom-up, et les gens qui rentrent, qui vont direct au centre, ont une organisation de type top-down. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer ce que ça veut dire. J'ai encore 5 minutes, Mario?
5 minutes,
ok. Je vais vous montrer un film de Vincent Minnelli. Alors, c'est une version italienne, mais on s'en fiche. Alors, j'avance un peu. Hein?
Super italien.
Regardez les pas, surtout. On a un type parfait top-down, un type bottom-up. Vraiment, c'est les exemples les plus parfaits qu'il y a de ça. Et ça commence. Je me rends compte que ça va vite pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de regarder, de faire de l'analyse du mouvement, mais je vais vous montrer un petit détail. On pourrait voir toute la vidéo comme ça, mais en gros, les personnes suspendues comme Fred Astaire, cette chorégraphie, elle est parfaite parce qu'ils font les mêmes pas au même moment. Donc, à un moment, pas là, mais c'est au moment où ils sautent. Et c'est tout au long du film, je pourrais vous donner 25 exemples. Mais voilà, là ils font un saut. Vous voyez que c'est très étonnant. Fred Astaire ne fait pas d'appel. C'est-à-dire, lui, il est déjà suspendu, il plie les jambes, il reste en l'air. Alors que l'autre, il a besoin d'aller dans le sol pour pouvoir se lever. Donc, en gros, le top-down, je vais vous le remontrer. Voilà, les top-down sont toujours plus rapides au départ, c'est-à-dire sont plus lents au départ parce qu'ils sont moins explosifs, et ils sont plus rapides à l'arrivée parce qu'ils sont déjà en haut. En gros, je ne sais pas si vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, la majeure partie d'entre vous, mais tu te souviens Ben Johnson et Carl Lewis. Ben Johnson était un coureur de 100 mètres, grosse baraque, il avait un départ explosif. Ben et Carl Lewis, il était beaucoup plus lent au départ, mais après il accélérait, et lui il coiffait au bottom. Donc les bottom-up, en général, c'est des gens qui ont besoin du sol pour partir. Ça commence très souvent par une compression et puis par une explosion. Fait que même les personnages de Walt Disney, il a un regard très fin sur le mouvement. Quelqu'un qui se lève d'une chaise, d'abord, il se compresse. Les personnages, si vous analysez frame par frame, ils se compressent, puis ils partent. Les top-down, c'est d'abord le regard qui va chercher quelque chose. Vous en connaissez des top-down, vous savez, les gens qui marchent, on dirait qu'ils ne touchent pas le sol. C'est des gens. C'est un besoin d'horizon, quelque chose qui est de l'ordre du regard. C'est l'œil qui va chercher quelque chose. Et le corps qui le suit. Les bottom-up, c'est un peu des hip-hoppers. Ils ont un centre de gravité postérieur, c'est-à-dire qu'ils tombent un peu derrière l'astragale. Ils ont aussi le centre de gravité haut qui tombe derrière la coxo fémorale. En général, c'est des postérieurs. Et cette élégance de Fred Astaire, elle est due à cette suspension du cou, à cette approche du regard. Bref, ces deux types-là, j'ai trouvé une corrélation mathématique entre cette organisation gravitaire et la déambulation dans l'espace. J'ai pas encore fait un vrai protocole scientifique, ça va être mon prochain projet. Mais comme des centaines de personnes sont passées dans cette installation, j'ai récolté plein de data. Au fait, je peux enregistrer les positions X, Y de chaque personne. Et j'ai fait un petit logiciel, j'ai créé un petit logiciel pour les voir. En Isadora, Donc, je vais vous montrer le perfect bottom, ce qu'il fait, il rentre. Donc ça, ce sont vraiment les positions. Il est en train de lire en temps réel un fichier. Vous voyez, il fait le tour des bords, puis il va un peu au centre, puis il retourne sur les bords, puis il se met au centre, etc. En fait, cette visualisation m'a permis de vraiment vérifier ça. Et je trouve que ça, si cette corrélation, elle est vraiment... J'ai des centaines de données, à mon avis, je ne me trompe pas. Mais si cette corrélation est vraie, ça veut dire qu'il y aurait vraiment une corrélation possible entre la manière dont j'ai tendance à déambuler dans un espace. Et évidemment, on ne parle que de tendance, hein, mais au sens deleuzien. Il n'y a pas d'élément pur dans la vie, mais il y a des tendances pures. C'est un peu comme on est tous un peu plus droitier que gaucher, mais on fait des trucs avec les deux. Donc si ceci est vrai, c'est vraiment une grande possibilité. Et pour moi, c'est aussi quelque chose de lié, mais ça ferait l'objet d'un partenariat avec quelqu'un en sciences politiques, aussi d'une organisation politique. Parce que pour conclure, il y a des peuplades qui sont plutôt à tendance bottom-up, comme par exemple les Maasai. Les danses des Maasai au Kenya, les Maasai, c'est des défenseurs du territoire, donc c'est cette terre. Si vous voulez, c'est l'esprit d'Antigone. Pour Antigone, le sol est le sous-sol, et ce sous-sol est important. Elle veut ensevelir ses frères, elle a besoin. Le sous-sol est important pour Antigone. Donc on a tous soit Antigone, soit quelqu'un de beaucoup plus nomade. Hein, les Nubas en Afrique, ils donnent aux montagnes et aux fleuves de là où ils vont les noms des montagnes et des fleuves de là où ils viennent. C'est-à-dire, s'il y a une montagne à est, c'est toujours le Kilimandjaro. C'est une autre montagne, mais il appelle toujours Kilimandjaro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que symboliquement, ils tirent le territoire avec eux comme une couverture. C'est-à-dire que les nomades reproduisent, n'ont pas besoin d'un endroit spécifique comme les Maasai, mais ils peuvent se déplacer en reproduisant à l'intérieur d'un autre territoire, l'organisation interne du territoire. Et évidemment, leurs danses sont toutes des danses top-down. C'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Oui.